Josué, au chapitre 1. On va lire les 9 premiers versets et c'est la deuxième partie du message de la semaine passée. Et je vais la lire en français courant aujourd'hui, simplement pour vous montrer la différence avec ce qu'on a lu la semaine dernière dans la Louis II. Josué, chapitre 1. Donc, je vais mandater quelqu'un aujourd'hui, Joël. Il est toujours disponible de toute façon. Et, si je parle trop vite, Joël, tu lèves la main. Ça va? Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun, ou de Nun, et auxiliaire de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple, pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites, comme je l'ai promis à Moïse. Je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Votre territoire s'étendra du désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban, au nord et de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est, à travers le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. » Verset 7. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. C'est stimulant, ce nom. C'est encourageant, hein? On va prier. Seigneur notre Dieu, qu'il est bon de savoir, Seigneur, que nous pouvons compter sur tes promesses. Qu'il est bon à travers ces versets que nous avons lus, Seigneur, ce matin, ce matin, de savoir que tu nous promets, entre autres, de nous accompagner, Seigneur, du début jusqu'à la fin de notre vie. Que, Seigneur, tu seras présent comme tu l'as été avec Moïse, avec Josué, avec tous les autres qui nous ont précédés. Et ce matin, Seigneur, nous n'avons pas besoin de te demander d'être présent au milieu de nous, puisque c'est aussi une promesse que tu nous fais à travers la personne de Jésus-Christ. Que tu seras présent, que tu es présent au milieu de nous. Que tu es présent, Seigneur, à côté de moi, à côté de cette chair. Et que tu es avec moi, Seigneur, pour proclamer cette bonne nouvelle qui vient de celui qui est mort pour mes péchés, mais aussi ressuscité. Pour me donner la vie éternelle. Seigneur, tu connais les besoins de chacun ici dans cette salle ce matin. Seigneur, dans ta grande générosité, dans ta grande bonté, que tu puisses répondre aux besoins de chacun. Ouvre les oreilles de nos cœurs afin que nous puissions non seulement, Seigneur, recevoir ce que tu as pour nous, mais aussi prendre la décision de mettre en pratique, Seigneur, ce que ton esprit a à dire à son Église. Et c'est au nom de Jésus que je te le demande. Et le peuple de Dieu dit... Amen, amen. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu avait des biens en réserve pour nous, c'est-à-dire des biens de riches bénédictions à déverser sur nous et à travers nous. Et ce matin, nous allons voir, ça c'était le premier principe, on va voir le deuxième principe, en tout cas les autres principes, c'est qu'au verset 5, il y a une promesse à nous emparer, une promesse que les enfants de Dieu ont à s'emparer. Remarquez ce qui est écrit au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Non seulement Dieu a révélé à Josué les biens qu'il réservait à son peuple, mais il lui fait également ici une promesse. Rappelez-vous toutes ces choses. Rappelez-vous ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Toutes ces choses sont arrivées, ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors c'est important, des fois on cherche des illustrations dans certains livres. Mais si on regarde dans l'Ancien Testament, on a tout ce qu'il nous faut pour amener des illustrations dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple. Et ce ne sont pas simplement des histoires, ce ne sont pas simplement des petites illustrations, mais c'est le vécu de personnes qui nous ont précédés. Et c'est important qu'on plonge nos regards dans l'Ancien Testament, même si c'est pas toujours certains livres, ne sont pas toujours faciles à lire. Que trouvons-nous dans cette promesse? Verset 5, la première partie du verset 5. Dieu promet de lui accorder la puissance dont il a besoin pour accomplir le plan qu'il a prévu pour lui. Regardez ce qui est écrit, verset « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Pourquoi? Parce que je serai toujours avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Frères et sœurs, tout comme Dieu a promis à Josué de lui accorder la puissance dont il a besoin pour accomplir la tâche à laquelle il a été appelé, Dieu promet de vous accorder la même puissance pour accomplir la tâche à laquelle vous êtes appelé pour l'avancement de son royaume. Amen. Oi, 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 oi. Ah! Heureusement que je n'ai pas amené mes Valium. Amen. Amen. Eh oui. Il faut que ce soit un amen convaincant, pas un amen déprimant. Il y a différentes sortes d'amen, hein? Mais au moins, à l'Église, un convaincant, quoi. Voilà. Vous vous dites peut-être, je n'ai pas la puissance de traverser le fleuve du Jourdain. Je n'ai pas la puissance de chasser les géants du doute, de la haine, de la crainte, de l'envie, de la jalousie, de l'inquiétude. Peut-être, mes chers amis, ces ennemis, ces géants ne peuvent pas tenir devant nous, devant vous, si vous agissez au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Rappelez-vous ce que j'ai mentionné la semaine dernière, vivre une vie victorieuse n'est pas de votre responsabilité, c'est croire à la capacité de Dieu de vous accorder la victoire qui compte. Amen. On a entendu à travers le témoignage ici ce matin. Essayez de devenir chrétien par ses propres forces, on n'obtiendra jamais la victoire. C'est toujours défaite par-dessus défaite. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez que Dieu ne fait pas appel à vous pour faire n'importe quoi, mais qu'il promet que ce qu'il vous demande, il l'accomplira à travers vous, alors vous apprenez à vivre une vie victorieuse. Frères et sœurs, qui peut arrêter l'œuvre de Dieu? Qui peut s'opposer à l'enfant de Dieu qui vit comme Dieu le demande? Personne ne peut tenir devant un enfant de Dieu et le vaincre. Personne ne peut tenir devant un enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu. Personne ne peut tenir devant cet enfant de Dieu parce que Dieu promet qu'il sera toujours avec lui et qu'il le soutiendra. Amen. Oui. Cela est impossible lorsque cet enfant de Dieu obéit au Seigneur. Il peut mourir en tant que martyr comme Étienne, par exemple, mais cela n'empêchera pas l'œuvre de Dieu de progresser. Et vous savez, quand vous avez cette certitude que Dieu est avec vous, quand vous avez cette certitude que vous marchez dans les voies de Dieu, bien, vous réfléchissez exactement comme Paul, parce que souvent, c'est ce qui nous empêche d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu. On a peur de mourir. Paul disait, la mort, ça ne m'inquiète pas. Hein? Vous imaginez, vous arrivez devant un chrétien, vous dites, écoute, tu continues à prêcher, si tu continues à évangéliser, on va te tuer. Mais vous allez me rendre service, hein? Parce que moi, je sais où je m'en vais. Hein? Et là où je m'en vais, c'est encore beaucoup mieux qu'ici. Hein? Mais si on est attaché au bien de la terre, hein? Si on est attaché aux choses qui nous voient, c'est pas long que si quelqu'un nous menace, on va tout abandonner. Hein? Parce qu'on a encore, non pas la crainte de Dieu, mais on a encore la peur de mourir. Hein? Et avoir la peur de mourir, c'est avoir peur de perdre tout ce qu'on a. Hein? Et ça cache aussi souvent l'idée qu'on ne sait pas nécessairement, on n'a pas l'assurance à 100% de savoir où on s'en va. Hein? Paul avait cette certitude. Il désarmait tous ses ennemis. Hein? Ses ennemis étaient complètement désarmés. Il a été lapidé à de nombreuses reprises. Il a manqué mourir noyé dans l'eau. On l'a persécuté. On l'a abandonné. Il dit « Tous les chrétiens de l'Asie m'ont abandonné. » Il y a eu des problèmes avec les églises qu'il a implantées. À Corinthe, c'était une église qui ressemblait aux gens du monde. Il y a des choses qui se passaient pires que quand dans le monde. Et à un moment donné, Paul avait le choix entre rester pour soutenir ses chrétiens, pour les fortifier dans leur foi, ou retourner auprès du Seigneur. Il disait, la meilleure part, ce serait de retourner auprès du Seigneur. C'était la meilleure part. Mais il savait qu'il devait rester pour fortifier les frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs, il n'y a personne qui peut résister à un chrétien qui dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Et je suis persuadé que quand on réagit comme ça, quand on a cette pensée en nous, hein, le Seigneur, il nous donne la grâce d'affronter la mort avec une facilité déconcertante, comme les premiers chrétiens qu'on brûlait en les recouvrant de bitume dans les arènes de Rome et qu'on les allumait pour faire des torches, pour éclairer les arènes de Rome, et pensant de divertir le peuple. Et finalement, c'est ce qui a amené justement l'Empire de Rome a changé sa façon de voir les choses. En fait, les gens ont changé leur façon. Vous savez, les seigneurs, les voies de Dieu sont impénétrables. On ne sait pas comment Dieu va faire, les moyens que Dieu va utiliser pour faire en sorte que son royaume avance. Étienne est en train d'être lapidé et il priait que Dieu n'impute pas ce péché aux gens qui étaient en train de le persécuter. Ben, Étienne, il savait où il s'en allait. Et dans sa grâce, il a vu le ciel, une fenêtre du ciel s'ouvrir. Il a vu le Seigneur Jésus qui était assis à la droite de Dieu se lever. Et je suis convaincu, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il s'est levé pour venir à la porte du ciel, à la rencontre de son serviteur, lui donner la main et dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence de ton maître. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as été une sentinelle pour nous. Tu as été une sentinelle pour le royaume de Dieu. Entre maintenant dans le repos. C'est extraordinaire, non? Amen. Les frères et sœurs, c'est la même chose que Dieu vous promet. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il n'y a absolument ni personne, ni quoi que ce soit qui puisse résister à un enfant de Dieu et entraver l'œuvre de Dieu si celui-ci vit comme le Seigneur le demande. Car Dieu dit que vous vous êtes appelé à être plus que vainqueur. Mais vous dites peut-être, vous êtes peut-être en train de vous dire, pasteur, c'est comme cela que ça se passait à l'époque de Josué, mais plus à notre époque, c'est terminé, on est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a écrit. Lorsqu'il dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses, c'est-à-dire concernant tous les ennemis qui cherchent à attaquer un enfant de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puis il ajoute au verset 37 de Romains 8, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs. Amen? Amen. Est-ce que vous êtes vainqueurs? Amen. Non, vous n'êtes pas vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueur. Plus que vainqueur. C'est ce petit plus. C'est ce petit plus qui va vous permettre de lâcher un amen convaincant. On est plus que vainqueur, frères et sœurs. Plus que vainqueur, ce n'est pas vainqueur, plus que vainqueur. C'est ce que Paul dit. Cela signifie qu'il n'y a personne, aucune puissance, rien qui puisse résister à quelqu'un qui vit comme Dieu le demande. Vous êtes de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi on est plus que vainqueurs, frères et sœurs. Parce que celui qui vit en nous est beaucoup plus puissant que celui qui règne à l'extérieur de ce monde. Ah! Ah! Le bateau commence à décoller, là. Oui. Oui. Pourquoi on est plus que vainqueur? Parce que celui qui vient en moi est beaucoup plus puissant que celui qui est à l'extérieur. Pourquoi je suis plus que vainqueur? Parce que celui qui est à l'extérieur a déjà été vaincu à la croix. Il a déjà été vaincu. Et celui qui l'a déjà vaincu, qui est en moi, est capable de continuer à s'en occuper. Ah, non, amen, plus un teint de l'œil, c'est quelque chose. Hein? Ça, c'est un extra. Hein? Amen. Oui. Dieu a promis d'agir avec puissance à travers nous et de nous accorder la victoire. Verset 5b, deuxièmement, regardez, Dieu promet d'être toujours avec lui, toujours, pour nous encourager à aller de l'avant dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Dieu promet d'être toujours présent avec nous. Est-ce que vous avez cette certitude ce matin? Pour ceux qui sont convaincus, vous dites un amen. Les autres, vous vous taisez. Est-ce que vous êtes convaincus ce matin que Dieu est toujours présent avec vous?
Amen.
OK. Regardons encore une fois ce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je suis peut-être en train de vous dire, mais pasteur, pouvons-nous être certains que ces promesses s'appliquent encore pour nous aujourd'hui? Comment on peut savoir qu'une promesse de l'Ancien Testament est encore valable pour nous aujourd'hui? Eh bien, on va la répéter dans le Nouveau Testament. Et ça nous empêche d'hésiter. Ça nous empêche de penser que c'est possible que ça ne soit pas applicable aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 5. « Afin d'encourager les chrétiens de son époque. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et lorsqu'il a dit cela, je suis à peu près certain qu'il pensait à ce que Dieu avait dit à Josué. Il est en train de leur dire, « Vous qui êtes chrétiens, je vous rappelle que Dieu a déjà dit dans le passé, alors, oui, je vous rappelle, vous qui êtes chrétiens, ce que Dieu a déjà dit dans le passé, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Alors, vous avez le droit de réclamer cette promesse pour vous, frères et sœurs. N'est-il pas réconfortant de savoir que non seulement Dieu promet de nous accorder la puissance dont nous avons besoin pour l'avancement de son royaume ou pour le plan qu'il a prévu pour nous, mais qu'il promet d'être toujours avec nous? Frères et sœurs, si vous avez sa puissance et si vous savez qu'il est présent avec vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prendre possession de votre Canaan. Et le Canaan, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Le chrétien se repose dans la foi en Jésus-Christ, dans sa foi en Jésus-Christ. Non seulement vous pouvez plaider devant le trône de Dieu pour recevoir les biens que Dieu en réserve pour vous, mais vous devez plaider devant son trône pour que ses promesses, ou les promesses qui étaient des réalités dans la vie de Moïse et de Josué, deviennent également une réalité dans votre vie. Il a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » N'est-ce pas fortifiant de savoir que le Seigneur est continuellement avec moi? N'est-ce pas fortifiant de savoir que le Seigneur est continuellement avec vous, frères et sœurs? Continuellement. Et avec les yeux de la foi, c'est ce qu'on voit. Frères et sœurs, le temps ne peut pas effacer ses promesses. Dieu a fait cette promesse à Moïse, il la renouvelle maintenant à Josué, et il nous dit qu'il est en est de même avec nous, à travers la personne de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, « Sachez-le, je serai tous les jours avec vous, et ce, jusqu'à la fin du monde. » Jésus répète cette promesse que Dieu a faite à Josué et à Moïse. « Sachez-le, » j'aime bien en français courant, c'est pas « voici », mais « sachez-le ». Je serai avec vous tous les jours et ce, jusqu'à la fin du monde. Je voudrais maintenant vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression, lorsque vous lisez la Bible, que cette époque était spéciale, que ces gens étaient spéciaux et que ce que Dieu a accompli pour eux était maintenant terminé? Et mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus faux. Si Dieu devait s'adresser directement à moi, il me dirait ce matin, « Jacques, tout comme j'étais avec Moïse et avec Josué, je suis avec toi. » Nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est le même aujourd'hui, qu'il ne change pas. Le psalmiste dans le psaume 119, versets 89 et 90, disait ceci, « Seigneur, ta parole subsistera toujours, éternellement. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité dure de siècle en siècle. » Frères et sœurs, Dieu dit, « Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec Josué, et comme j'étais avec Josué, je serai avec Jacques, et comme je suis avec Jacques, je serai avec tous les chrétiens de l'Église de Dlin qui sont nés de nouveau. » Amen. Oui. Oui. Est-ce que vous croyez cela? Je le crois, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Et nous y parviendrons seulement avec la force que Dieu nous donne. Pardon, non seulement avec la force que Dieu nous donne, mais parce qu'il promet qu'il sera toujours avec nous. Ces promesses que nous retrouvons dans la Bible ce matin, frères et sœurs, ne sont pas des reliques à placer dans un musée, mais plutôt des chèques à être déposés dans une banque parce qu'elles ont une valeur sûre, parce que c'est Dieu qui fait ses promesses. Il y a, troisième principe, il y a une personne à former. Et vous allez voir à un moment donné que vous pouvez hésiter que Dieu est présent, mais il y a des conditions pour que Dieu soit toujours présent dans nos vies aussi, hein. Et on va voir ça à travers ces passages ce matin. Non seulement Dieu a des biens, des bénédictions en réserve pour nous, non seulement il nous a fait cette promesse qu'il sera toujours avec nous et qu'il agira avec puissance pour nous et à travers nous, mais il y a une personne à former pour assumer cette tâche à laquelle il nous appelle. Nous avons dit que c'est Dieu qui nous donne la victoire, et nous on a vu ça la semaine passée, et qu'il n'avait rien que nous pouvions faire pour obtenir la victoire. Et pourtant, regardez au verset 7 qu'est-ce qui est écrit dans la parole. Dieu dit que nous devons être forts. Dieu dit que nous devons prendre courage. Et Dieu dit que nous devons agir fidèlement selon la loi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Et regardez là, pourquoi. Il marque pourquoi on doit faire ça. Il marque pourquoi on doit agir comme ça. afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pas dans presque tout, pas dans à peu près tout, pas dans quelques projets, dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit à Josué, tout est à toi, tu prends possession car je suis avec toi. Je t'ai promis que tu remporterais la victoire, et je t'ai promis que je serai toujours avec toi, et je t'ai promis que les biens que tu obtiendrais, je te les donne. Tout est là devant toi seulement pour que tu puisses voir ces promesses se réaliser dans ta vie. Tu dois être fort, tu dois être courageux, et tu ne dois pas te détourner ni à droite ni à gauche de ma parole. Voilà la condition que Dieu donne. Maintenant, si cette promesse, dont on a reconnu qu'elle était valable pour Moïse et Josué, eh bien, elle est valable encore pour aujourd'hui, Dieu ne change pas, c'est exactement ce qu'il nous demande. Il y a trois choses que Josué avait besoin ici. Regardez verset 7. Il avait besoin d'être fort. Fortifie-toi. Il avait besoin de courage. Sois courageux. Et il devait obéir. Agis fidèlement. Certains se disent peut-être à l'instant même, « Pasteur, c'est exactement les trois choses qui me manquent. Je suis pas fort, je suis si faible, je suis pas courageux, je suis un peu heureux. Et je suis certainement pas toujours obéissant comme le Seigneur le demande. Je tombe si souvent. Je suis si faible. Comment Dieu peut-il me demander d'être fort, d'être courageux en toutes choses? Je n'ai vraiment pas tout ce que Dieu me demande. Je n'ai rien de ce que Dieu me demande pour me qualifier. » Pour me qualifier, pour être qualifié, pour le servir. Frères et sœurs, Josué était fait de chair et de sang comme vous et moi. Voici ici le secret. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous demande quelque chose, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir, frères et sœurs. Chaque commandement est une promesse et derrière chaque commandement de Dieu, il y a la toute-puissance de Dieu pour mener à bien ce commandement. Car voyez-vous, Dieu ne veut pas que vous puisiez vos forces en vous-même. Dieu ne veut pas que vous puissiez votre courage en vous-même. Et Dieu ne veut pas que vous vous obéissiez à sa parole en comptant sur vos propres forces. Vous devez comprendre le verset 7 à la lumière du verset 5 et du verset 6, où notre Seigneur dit, « Je serai toujours avec toi. C'est moi qui te fortifierai et fortifierai, je ne te délaisserai pas. » C'est à cause de cela qu'il nous dit de nous fortifier. Est-ce que vous saisissez, frères et sœurs, ce matin? Ce n'est pas ma propre force. C'est par la puissance qui se trouve en moi, c'est par la puissance de Jésus-Christ. Si j'y vais par mes propres forces, je vais m'écraser. Et j'ai expliqué la semaine passée concernant une tentation. J'ai dit la semaine passée qu'il y a des chrétiens qui, toute leur vie, qui luttent contre le même péché, qui n'arrivent jamais à remporter la victoire. Pourquoi? Ils n'ont pas de victoire à remporter. Ils l'ont déjà remportée. Si vous essayez de remporter la victoire par vous-même, c'est par vos propres forces, c'est dans votre chair. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de glorifier votre chair, que vous veniez en avant pour dire, j'ai un témoignage à rendre, hein? J'avais tel péché, j'ai vaincu tel péché, mon œil, hein? ce n'est pas un témoignage qui glorifie Dieu, ça. Hein? Dieu n'est pas là pour glorifier la chair, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour crucifier la chair, hein? C'est de venir en avant, témoigner, rendre témoignage des frères et sœurs. Pendant 20 ans, j'ai lutté contre le même péché parce que j'essayais par mes propres forces d'avoir la victoire sur ce péché. Et quand j'ai compris que Jésus-Christ avait déjà remporté la victoire sur ce péché à la croix parce qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il n'a jamais péché, quand je lui ai remis mon esclavage concernant tel péché, j'ai été délivré. C'est pas plus facile, ça, que de transpirer pour résister à un péché durant la journée, finir par tomber, le soir à se coucher, on est déçu, on est démoralisé parce que ça fait des années qu'on se fait renverser par le même péché. On se lève le lendemain matin, on n'a pas le goût de lire la Bible parce qu'on sait qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Et que la journée qui commence, ça va être encore les mêmes tentations, les mêmes combats, et on va tomber encore une fois, plutôt que de venir au trône de la grâce de Dieu, dire « Seigneur Jésus, ce péché-là qui est j'ai, Seigneur, tu as vécu cette tentation-là et tu as remporté la victoire sur cette tentation-là. Seigneur, aie pitié de moi aujourd'hui. Seigneur, je veux te remettre cette victoire. Je veux te remettre cette victoire, Seigneur, qui m'empêche de te glorifier, qui m'empêche de progresser, qui m'empêche de pouvoir te servir comme tu me le demandes, Seigneur Jésus. Ouais. » Et là, vous commencez, vous avancez, vous progressez, et vous apercevez, comme certains témoignages que j'entends, hein, les gens qui viennent me confesser qui ont été libérés de tels péchés, tel péché. Hey, pasteur, il faut que je te raconte. Hey, des années, pendant des années. Ouais. Et là, maintenant, c'est fini. Avant, je n'étais pas capable de résister. Maintenant, c'est comme s'il n'existait même plus cette tentation-là. Elle n'a plus d'effet sur moi. Vous savez, avant de me convertir, moi, je fumais 50 cigarettes par jour. Hein? Ouais. Un gros fumeur, deux paquets de 25. Et j'avais vu une émission à la télévision d'État où on avait, je ne sais pas comment, je vais le dire dans mes mots, on avait inséré une caméra dans le placenta d'une femme enceinte avec un bébé de 7-8 mois. Et à chaque fois, parce que cette femme, elle fumait, et à chaque fois que cette maman fumait, eh bien, le bébé qui était rose, eh bien, à chaque fois qu'il fumait, devenait mauve, devenait violet, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une perte d'oxygène parce que la mère, elle tirait une touche de cigarette. Et on pense que la mort du bébé né, là, vous savez, celui qui meurt au bout de quelques semaines, on pense que c'est dû à ça, ses réflexes de manquer d'oxygène, à un moment donné, ça continue après la mort. En tout cas, au Canada, c'est une piste qu'on est en train d'étudier. On demande aux femmes enceintes de ne pas fumer, quoi. Et moi, ça m'avait tellement choqué que j'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai lancé par la fenêtre de ma voiture, j'ai dit « c'est terminé ». Et finalement, j'ai réussi par mes propres forces à arrêter de fumer. Et quand je suis venu au Seigneur, mais ce que je m'apercevais par contre par la suite, c'est que quand j'entrais dans une pièce où il y avait de la fumée, des fumeurs, je me surprenais à « que ça sent bon, là, c'est une bonne dose de nicotine, hein ». Ah! Ouais. Je me suis aperçu que je n'étais pas délivré. Je ne pouvais pas rendre témoignage devant la chair que j'avais été délivré. C'est après ma conversion, ça. Hein? Ouais. Au début de ma conversion. Je ne fumais pas. Hein? Je réussissais à résister et tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai reconnu, en lisant la parole, que j'avais besoin d'une délivrance concernant la cigarette. Et j'ai dit, Seigneur, c'est terminé. Moi, là, je ne suis pas capable de rendre témoignage parce que si je viens rendre témoignage avant la chaîne, je vais dire que c'est par mes propres forces que j'ai réussi à arrêter de fumer. Mais je ne serai jamais capable de confesser que j'ai été délivré de la cigarette. Et j'ai dit, je te remets ce péché d'esclavage entre tes mains. Prends-le. Bon, je ne vise pas personne. Hein? Je parle de moi. Je vous dis comment j'ai ressenti ça. Quoi, hein? Bon. Alors. Et fini. J'ai avoué que j'étais un esclave de la fumée, quoi. Je vais vous dire la différence par après. Hein. Par après, quand je rentre dans une pièce qui s'est bourrée de nicotine, hein, je ne suis plus capable de la sentir. Hein. J'ai ça en horreur. Hein. Je me demande comment j'ai fait pour fumer dans ma vie, quoi. Pourquoi j'ai cette attitude-là aujourd'hui? Parce que j'ai été délivré. J'ai été délivré de la cigarette. Avec tout ce que cela incombe. Et à 50 cigarettes par jour, à 68 ans, je ne sais pas si je serai encore ici pour prêcher l'Évangile, quoi. Ouais. La victoire, elle se trouve uniquement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et quand on saisit ça, hein, c'est comme sur une base de lancement d'une fusée qui s'en va sur la Lune, il y a un décollage extraordinaire qui se fait dans notre vie chrétienne. Hein. Pourquoi? Parce qu'on arrête de combattre par nos propres forces et on s'appuie sur les forces de Christ pour avancer. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de dire à Josué ici. C'est pas toi qui vas combattre, Josué, c'est moi qui vais combattre. C'est pas toi qui vas remporter la victoire, Josué, c'est moi qui vais la remporter pour toi. Et non seulement je vais la remporter pour toi, je l'ai déjà remportée pour toi. Amen! Est-ce que vous savez que ceux qui sont faibles peuvent choisir d'être forts? Est-ce que vous savez que ceux qui sont peureux peuvent choisir de devenir des gens courageux? Est-ce que vous savez que ceux qui désobéissent à la parole peuvent choisir d'obéir à Dieu? Seulement, vous devez accepter d'être formé par Dieu. Car si vous pensez que vous allez obtenir la victoire en restant assis à ne rien faire, vous vous trompez. D'où l'importance de servir dans l'Église de Jésus-Christ. On ne vit pas une vie sanctifiée à rester assis sur des bancs d'église, frères et sœurs. On ne vit pas une vie sanctifiée uniquement en lisant la parole, frères et sœurs. on vit ce genre de vie-là, cette sorte de vie que Dieu nous appelle à vivre quand on se lève puis qu'on dit, Seigneur, je ne sais pas, tu m'appelles dans l'Église, mais moi, je veux te servir parce que j'ai été sauvé aussi pour te servir, Seigneur. Ouais. Et c'est à travers le service que Dieu va vous former. Dieu n'a pas demandé à Josué, reste assis ici, là, moi, je vais partir en avant, puis je vais tout renverser, tu vas voir, tu vas être émerveillé, tu vas me taper des mains, tu vas grandir, tu vas faire des bons géants, non. Dieu a dit, écoute, tu vas me servir, maintenant, je vais te montrer ce que je suis capable de faire à travers toi. Et là, tu vas pouvoir me glorifier, ça va te faire grandir, ça, de voir ton Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie. Et quand on sert, c'est exactement ce qui se passe. On grandit, on progresse dans notre foi parce qu'on voit Dieu agir à travers nous. On voit des gens qui complotent pour nous éliminer. Et on voit Dieu qui les tasse un par un. Un par un. On prie, on a peur. Écoutez, je suis un grand peureux, moi. Je suis un grand peureux tout seul. Mais avec Dieu, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. On est tous des peureux. C'est la première arme que le diable utilise pour nous paralyser, pour nous empêcher de servir le Seigneur. Pense à ce que les gens vont dire. Témoigne pas à tes voisins, pense à ce qu'ils vont penser de toi. T'es un illuminé, t'es un illuberlu. Moi, j'ai rendu témoignage à tous mes voisins. Il y en a deux qui sont venus ici. Il y en a une qui est morte il y a 3 mois, là, de mes voisines. Quand je suis capable, je témoigne. Ne dérange pas de passer pour un illuminé. La peur, oui, la peur de ce que les gens pensent. Mais oui. Et c'est pour ça qu'il dit, écoute, regardez ce qu'il lui dit, hein. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7, hein? Verset 7. Fortifie-toi. Trouve ta force en moi. Prends courage. En agissant finalement selon toute la loi que j'ai prescrite à Moïse, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Frères et sœurs, c'est une grande victoire à remporter, ça. Quand on arrête de vivre en tant que chrétien en fonction de ce que les gens vont penser de nous et qu'on vit notre vie chrétienne en fonction de ce que Dieu va penser de nous. Ça, c'est une victoire extraordinaire. Il n'y a rien qui peut arrêter un chrétien qui a décidé, qui a compris, qui vit non pas en fonction de ce que les gens pensent de lui, mais en fonction de ce que Dieu pense de lui. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Frères et sœurs, moi, je suis un pasteur. Hein? Je suis pasteur. Il y a des gens qui viennent me voir avec toutes sortes de projets dans l'Église. Et ça, ce qu'ils ne savent pas, là, c'est que leur projet, bien, il y en a 20 qui m'ont parlé que si ce projet-là était dans l'Église, ils n'accepteraient pas ça. Hein, avant même qu'ils m'en parlent. Alors tu es obligé d'écouter les gens. Hein. Tu es obligé d'écouter les gens. Ouais. Et il y en a d'autres qui prêtent des projets et on leur dit non. Et ils peuvent penser que c'est parce qu'on est contre eux. Hein. Mais moi, je pars avec l'idée, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Hein. Sinon, je vais devoir accepter toutes les demandes que les gens font. Hein. Tous les projets que les gens font. Hein. Dieu nous a donné une vision d'Église, on essaie de fonctionner dans cette vision-là. Et en fonction de ça, bien, Dieu confirme, et c'est tel projet, oui, ça va aller en fonction de la vision de l'Église, quoi. Au risque de pouvoir penser, oui, mais si vous imaginez si je vis en fonction de ce que vous pensez de moi, bien, je ne dors pas des nuits, hein. Je me dis, bien, si je refuse ça, Seigneur, ouf, la prochaine Assemblée générale, il y en a 25 qui vont voter contre moi. Oh, hein? Ah, oh, je risque de perdre mon job. Vous imaginez si je vivais comme ça? Hein? Je devrais faire comme Michael Jackson, quoi, me faire piquer et me faire endormir pour dormir ma nuit en paix, quoi. En tout cas, j'avais un bel exemple avec Michael Jackson que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Hein? Ça lui coûtait 150 000 euros par année pour payer un docteur qui lui piquait pour lui donner un je ne sais pas quel produit, pour qu'il puisse dormir une nuit tranquille. 150 000 euros, hein? Ouais. Frères et sœurs, on est sauvés par la grâce de Dieu, on vit par la grâce de Dieu, et on agit en fonction de la grâce de Dieu. Seigneur, c'est ton Église, c'est ton projet. Seigneur, si ton projet est de toi, l'Église va être derrière. C'est pas le pasteur qui accepte, hein? C'est... Oui, mais si l'Église se trompe dans le vote, ah, parce que Dieu peut se tromper à travers les membres. Ah, c'est son Église. Hein? Dieu ne se trompe pas. Tu penses qu'il se trompe parce que ça ne fait pas ton affaire. Parce que tu aurais voulu que ça passe. Mais Dieu ne se trompe jamais. Hein? Ah oui. Et avec Josué, c'était la même chose. Hein? Et quand vous lisez un petit peu plus loin, là, eh bien, je ne me souviens pas quel verset, mais même dans le chapitre 1, hein, le peuple, ça c'est terrible, hein? Le peuple a juré à Josué qu'il lui obéirait comme ils ont obéi à Moïse, quoi. Ils ont commencé à murmurer contre lui dès les premières journées qu'ils ont quitté l'Égypte. Et Moïse, quel leader, hein? Quel leader! Dieu voulait détruire ce peuple, en faire un nouveau, et y intercéder. Que Dieu fasse grâce à ce peuple. Ouais. Eh bien, frères et sœurs, ça, là, hein, ça ne s'apprend pas à rester assis sur une chaise. Ça s'apprend en servant le Seigneur. Qu'on puisse plutôt voir se venger de quelqu'un qui nous en veut, d'intercéder auprès de la grâce de Dieu, du trône de la grâce de Dieu, que Dieu ait pitié de cette personne et qu'il le sauve ou qu'il intervienne. Frères et sœurs, Josué, c'est exactement comme ça qu'il a appris. Il a été témoin des merveilles que Dieu a fait pour lui, à travers lui. Pourquoi? Parce qu'il était en train de servir Dieu. Et frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Christ est en avant de nous comme il est en arrière de nous. Il est là, il est présent. Amen. Dieu veut que vous remportiez la victoire et il va agir en conséquence. Non seulement Dieu promet de nous donner la victoire, non seulement il promet de nous donner les biens qu'il en réserve pour nous, non seulement nous avons une promesse à réclamer, mais il y a quelqu'un à former. Êtes-vous prêt à dire ce matin, je serai fort par la grâce de Dieu? Qui est prêt à dire ça? Je serai fort par la grâce de Dieu? Oui. Par la grâce de Dieu. Je serai un enfant obéissant par la grâce de Dieu. Il y a une personne à former, à préparer pour voir Dieu agir avec puissance, et cette personne, c'est vous. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, c'est Paul qui le dit. Donc, ce qui est encore dans l'Ancien Testament comme promesse, ça revient dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui le dit. Au reste, fortifiez-vous, allez trouver vos forces, allez puiser vos forces dans le Seigneur, et non pas dans vos propres forces, et par sa force toute puissante. Frères et sœurs, on a un Dieu merveilleux. On va arrêter là pour ce matin. On verra les autres la prochaine fois. La prochaine fois, on verra qu'il y a un plan à suivre pour y arriver au verset 8. Et on verra comment Dieu va agir à travers nous, comment Dieu a un plan extraordinaire à travers nous pour nous amener à progresser. Frères et sœurs, Jésus est venu pendant 3 ans sur la terre. Il a fait son ministère pendant 3 ans sur la terre. 3 ans. Et il n'est pas resté assis. Il ne s'est pas contenté de rester assis parce qu'il n'y aurait personne qui aurait été sauvé. On n'aurait jamais vu aucun miracle arriver. Jésus a servi son Dieu fidèlement. Et Dieu a béni. Dieu l'a béni à travers tout ce qu'il a accompli, à travers toute l'œuvre qu'il a accomplie. Même les promesses que Dieu avait faites à Josué et à Moïse se sont accomplies à travers Jésus-Christ. Je parle dans son 100% homme, hein, pas dans son 100% Dieu. Dans son 100% homme, il est dû à combattre la même chose que nous, frères et sœurs. Hein? Il faut arrêter de penser qu'il y avait un mur à chaque fois qu'il arrivait une tentation. On nous dit qu'il a résisté à toutes les tentations, qu'il n'a jamais péché. Hein? Ouais. Jésus n'était pas 50% homme, 50% Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Frères et sœurs, dans ce livre de Josué, eh bien, le Seigneur dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et frères et sœurs, tout terrain que vous allez fouler, c'est-à-dire, vous allez voir vos voisins, vous rendez témoignage à vos voisins. Dieu dit, « Je te le donne. C'est par la foi, je te le donne. » On te rend témoignage, on prie après. Josué, c'est quelqu'un qui avait une vie de prière. Moïse, c'est quelqu'un qui avait une vie de prière. On prie pour nos voisins. Et on voit des choses s'accomplir. Ça fait 30 ans que je prie pour qu'une femme se donne au Seigneur. Et cette semaine, j'ai eu un mail qu'elle a commencé, qu'elle était invitée à aller dans une église chrétienne dimanche passé et qu'elle a apprécié ce qu'elle a entendu et ce qui s'est passé durant le culte. 30 ans. Elle m'a demandé si je connaissais tel pasteur, telle église. J'ai vérifié, j'ai dit, écoute, si tu te sens à l'aise dans cette église, bien, va retourner dans cette église. Dieu est bon et Dieu, ce qu'il a fait à travers Moïse, Dieu, ce qu'il a fait à travers Josué, Dieu, ce qu'il a fait à travers Christ, veut le faire à travers nous, frères et sœurs. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera encore de plus grandes choses que moi. Est-ce que vous croyez à cela? Oui. On va arrêter là pour ce matin. Désolé, j'arrête en plein milieu du message, mais c'est pas facile de trouver une conclusion. Et ce qui est important de se rappeler, frères et sœurs, c'est que les promesses de Dieu, elles sont sûres, elles sont certaines. Ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Et si Dieu a promis à Josué qu'il serait avec lui comme il était avec Moïse, eh bien, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est une promesse qu'on retrouve dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Dieu promet d'être avec nous aussi aujourd'hui. Il y a des conditions, on a donné une condition, c'est obéir fidèlement à sa parole. Et on va voir Dieu accomplir de grandes choses à travers nous, et non pas nous accomplir de grandes choses pour Dieu, mais voir Dieu accomplir de grandes choses à travers ses enfants. Amen. Et ce qui est béni dans tout ça, hein, c'est que, frères et sœurs, le diable veut tout faire pour nous empêcher qu'à travers nous, Dieu puisse être glorifié. Et je peux être certain d'une chose, non seulement Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés, mais Dieu nous aime encore après qu'il nous a sauvés. Et ce que Dieu veut, c'est se glorifier à travers ses enfants. Dieu veut encore accomplir des miracles à travers ses enfants. Est-ce que vous croyez à cela aujourd'hui? Et les plus grandes choses qu'on peut faire que Jésus n'a pas faites, c'est d'amener des gens à passer de la mort à la vie, c'est-à-dire passer de la mort à la vie, naître de nouveau, frères et sœurs. Naître de nouveau. Ouais. Jésus a rallongé les bras, il a ramené la vue aux aveugles, il a fait marcher des boiteux, il a fait marcher des infirmes. Et frères et sœurs, il nous a donné un ministère extraordinaire pour que Dieu se glorifie. Amener les gens à passer des ténèbres à la lumière, naître de nouveau, faire partie du royaume, être devenir des citoyens du royaume de Dieu, dont vous faites partie, la plupart. Et Dieu veut rajouter un plus grand nombre possible à son Église. Amen. Est-ce que vous croyez à ça aujourd'hui? Ouais. Regardez les événements à l'extérieur. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes peut-être la dernière Église. Et le Seigneur nous a dit, dans les derniers temps, ce sera comme à l'époque de Noé. Vous aurez beau prêcher la parole, la plupart... Hey, Noé a prêché pendant 120 ans, hein? Il n'y a pas un seul qui est rentré dans l'arche à part de sa famille. Frères et sœurs, si vous vivez encore 10 ans, 15 ans, et que le Seigneur, dans sa grâce, vous accorde le privilège d'en amener un seul au Seigneur, il vous aura fait une grâce qu'il n'a pas faite à Noé à son époque. Moi, j'ai amené mes deux, le Seigneur m'a utilisé pour amener mes deux parents au Seigneur, si le Seigneur m'a mis au monde uniquement pour ça, gloire à Dieu. Moi, je vais revoir mes parents quand je rentrerai dans le ciel. Et frères et sœurs, on a un témoignage, on a un beau témoignage à rendre. On a un privilège extraordinaire à partager aux gens. Dieu les aime. Et comme on a chanté dans un cantique, Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tous parviennent au salut. Et c'est à travers vous, c'est à travers moi que Dieu veut faire en sorte que ces gens passent des ténèbres à la lumière. Amen. Et ces promesses qui ont été données à Moïse, qui ont été données à Josué, sont valables aussi pour vous aujourd'hui. Là où vous mettez le pied, Dieu dit, je serai présent avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, comme j'ai fait pour Moïse, comme j'ai fait pour Josué, comme j'ai fait pour tous les autres avant vous, comme j'ai fait pour Calvin, comme j'ai fait pour Luther, comme j'ai fait pour Wesley, comme j'ai fait pour les autres. Dieu dit, je serai avec toi. Marche fidèlement et tu me verras faire des prodiges à travers toi. Frères et sœurs, on n'est pas rendu là dans notre programme, mais la mer Rouge, ça n'a pas suffi. Hein? Mais Dieu a quand même arrêté l'eau du fleuve du Jourdain. Hein? C'est extraordinaire, quoi. C'est un miracle. Et Dieu veut accomplir des miracles dans vos vies. On va se lever, on va chanter un cantique. Le cantique...